RFI, grand reportage.
Hugo Lanoé.
Bonjour à toutes et à tous. Qui écrit les lois de l'Union européenne ? Est-ce que ce sont les lobbyistes, les représentants d'intérêts des grandes entreprises qui les soufflent aux oreilles des législateurs ? La découverte, en 2017, des copier-coller de Monsanto avait alerté l'opinion publique. Pour évaluer le glyphosate, le fameux pesticide controversé, l'Union européenne s'était largement inspirée du rapport de la firme pour conclure à la non-dangerosité du produit. Plus récemment, le géant pétrolier ExxonMobil a été convoqué à une audition au Parlement européen. Il était accusé de désinformer les décideurs politiques et les citoyens quant au rôle des énergies fossiles dans le réchauffement climatique. Les lobbies pèsent en Europe. C'est un grand reportage de Christine Zibert.
I honestly would love to come. There's nothing I love more than this building.
Ambiance devant le Parlement européen à Bruxelles. Sur l'esplanade Solidarność, des activistes font une performance. Un homme mime un lobbyiste du géant pétrolier ExxonMobil. Il brandit son badge de lobbyiste et se vante du réseau d'alliés qu'il a construit en 9 ans.
35 millions d'euros gets you a lot of friends. So can I please invite my first on Business Europe?
Dépenser 35 millions d'euros, cela permet d'avoir pas mal d'amis. Mais à la fin, il se voit retirer son badge.
This is completely unacceptable, right?
Que se passe-t-il? Plusieurs ONG ont organisé cette performance. Elles dénoncent depuis longtemps le lobbying climato-sceptique d'ExxonMobil. Aux États-Unis, cette affaire a fait couler beaucoup d'encre dès 2015. Mais peu de gens en parlaient en Europe, raconte Frida Kieninger de Food and Water Europe. Yes.
Alors nous, on a décidé de faire une pétition, on a décidé d'envoyer ça au comité des pétitions au Parlement. C'était 2016, en fait, et on a attendu un an. Après, finalement, il y avait une réponse de la Commission, parce que le Parlement a dit « Ah, on a une pétition concernant ce Exxon, le changement climatique et le mensonge de Exxon. On va demander à la Commission quoi faire. » La Commission a dit « Non, on ne croit pas que c'est nécessaire de prendre des mesures, parce que nous, on est vraiment... » On fait déjà plein de trucs contre le changement climatique. Oui.
Finalement, une poignée de parlementaires a quand même agi. Résultat, ExxonMobil est convoqué ce matin à une audition publique au Parlement européen.
Dear chairs, I write regarding a joint hearing of the Environment, Public Health and
Sauf que l'entreprise ne viendra pas.
On the topic of climate change denial.
Dans une lettre envoyée aux parlementaires européens, la firme se dit dans l'impossibilité de participer en raison d'un litige en cours aux États-Unis. L'entreprise craint que les échos de cette audition puissent influencer cette procédure qui ressemble, il est vrai, à l'audition de ce jour. La performance se termine. L'une des spectatrices est venue spécialement d'Allemagne. ExxonMobil extrait du gaz à côté de son village près de Brême et Anja Büssenschütt est là pour dire son désaccord.
ExxonMobil organise de jolis événements pour nous raconter que le gaz est super bien pour le climat et que c'est une technologie verte. Mais c'est faux. Nous sommes venus pour faire entendre notre position et pour voir ce qui se passe aujourd'hui.
Les activistes s'engouffrent dans le bâtiment Joseph Antal du Parlement européen.
Ladies and gentlemen,
dans la salle 4Q1, l'audition commence. L'un des intervenants très attendus est Geoffrey Supran. Ce chercheur à l'université de Harvard a analysé des centaines de documents pour prouver qu'ExxonMobil a trompé l'opinion publique quant au danger du réchauffement climatique. Le géant pétrolier a entre autres sponsorisé un grand nombre d'éditoriaux dans de grands journaux américains. Geoffrey Supran cite celui qu'ExxonMobil a fait paraître en 2000 dans le New York Times.
Étant donné le peu de connaissances que nous avons de la variabilité de la nature, il est impossible pour les scientifiques d'attribuer la récente hausse des températures du globe, qui est somme toute insignifiante, à l'activité humaine.
Or, comme le chercheur le démontre, l'industrie du pétrole a connaissance du danger climatique depuis les années 50. Mais Geoffrey Supran parle aussi d'autres découvertes. La firme aurait grassement payé des scientifiques pour qu'ils produisent des articles académiques allant dans son sens et enfin aurait tout fait pour amplifier son message. Dès que le chercheur a fini son intervention, un parlementaire roumain conservateur, Laurențiu Rebega, prend la parole pour défendre ExxonMobil.
Nous sommes nombreux à savoir que M. Soprane a volontiers participé à cette campagne qui vise à vilipender une entreprise qui fournit plus de 40 000 emplois en Europe. Cette même compagnie a plaidé devant Donald Trump pour que les États-Unis ne quittent pas l'accord de Paris. On essaie donc de tuer une entreprise qui a investi plus de 10 milliards pendant les 15 dernières années en Europe et qui a une attitude positive concernant le climat. Monsieur Soprane, êtes-vous conscient du fait qu'avant la fusion entre Exxon et Mobil en 1999, c'était deux entreprises séparées qui n'avaient pas de responsabilité légale l'une pour l'autre? Pourtant, la majorité de vos documents ne date-t-elle pas de cette période?
Il se peut que Laurențiu Rebega ait lu attentivement la lettre qu'ExxonMobil a envoyée aux parlementaires, puisqu'il reprend une bonne partie des arguments évoqués. Dans cette lettre, la firme s'attaque elle aussi aux chercheurs. Elle dit avoir commandé une étude qui, elle, dévoile de multiples erreurs dans les conclusions de Geoffrey Soprane. Ce dernier jubile.
Ce n'est pas une surprise du tout. C'est exactement ce qu'Exxon a l'habitude de faire. Cette société a passé des dizaines d'années à saboter la science, à dénigrer des scientifiques et à saper l'action politique afin de protéger ses profits. Regardez ce qui se passe. ExxonMobil refuse de venir à cette audition et en coulisses, la firme nous dénigre plutôt que de s'exprimer publiquement parce qu'elle sait qu'elle y perdrait. Donc elle agit dans l'ombre et désinforme les décideurs derrière des portes fermées de façon à ce que nous n'ayons aucune possibilité de corriger leur dire. Souvent, nous ne savons même pas que ces conversations ont lieu.
Et oui, c'est comme cela que ça se passe au Parlement européen, confirme la parlementaire verte Molly Scott-Cato. Selon elle, les lobbyistes sont omniprésents dans les couloirs, les bureaux et les salles du Parlement européen. Elle raconte une récente expérience. Les parlementaires étaient alors en train de définir les investissements à exclure des produits financiers durable.
On pouvait littéralement sentir les lobbies pétroliers qui commençaient à s'en mêler. Tout d'un coup, nos collègues de droite disaient « mais on ne va tout de même pas toucher aux énergies fossiles ». En fin de compte, on a échoué à dire clairement que les énergies fossiles ne peuvent pas figurer dans un produit censé être durable. Et c'est un résultat de ce lobbying massif de l'industrie fossile. Alors pour arrêter ce travail de sape, il faut mettre les lobbies devant leurs responsabilités. Cela signifie que quand nous les invitons à venir s'exprimer devant nous, il faut qu'ils viennent. Et s'ils ne viennent pas, il faut qu'ils n'aient plus le droit de venir au Parlement européen. On demandera donc le retrait des badges de lobbyistes d'ExxonMobil et de tous ceux qui sont liés à eux.
Exxon and all those associated removed. Les lobbyistes d'ExxonMobil ont donc été à deux doigts de perdre leur badge d'accès. Mais la conférence des présidents, la plus haute autorité du Parlement européen, a finalement décidé de ne pas révoquer ces badges. L'entreprise nous a certes envoyé un communiqué intitulé « Changement climatique et lobbying », mais elle n'a pas donné suite à nos demandes d'interview.
Climate change is a global issue that requires the collaboration of governments, companies, consumers and other stakeholders.
Le géant pétrolier affirme, entre autres, dans ce communiqué, encourager des solutions politiques solides pour faire face aux risques du changement climatique, contribuer à la science et concentrer ses efforts sur la production de l'énergie dont le monde a besoin, tout en avançant dans sa recherche pour trouver des technologies à faible émission. Une fois l'audition terminée, nous voilà à nouveau sur l'esplanade Solidarność. Devant le Parlement européen, une autre performance est en cours.
C'est un groupe de percussion. Attends.
Ok.
C'est quoi?
J'ai jamais vu ça. Regarde, viens ici.
Nous sommes en compagnie de Pasqué Sabido. C'est lui qui avait, lors de la performance de ce matin, incarné avec brio le lobbyiste d'Exxon. Il faut dire qu'il s'y connaît, puisqu'il fait partie du Corporate Europe Observatory, une ONG qui observe et analyse depuis des années l'influence des lobbies à Bruxelles.
C'est un des capitales de lobbying en Europe et en fait mondial. Ce qu'on vient d'entendre d'Exxon, c'est que la tactique aujourd'hui, c'est plus la négation. C'est vraiment c'est de faire le lobbying pour l'affaiblement des mesures climatiques et aussi pour semer les doutes et montrer que c'est un problème économique si on prend l'action.
Ici, le lobbying se fait entre autres par l'intermédiaire de multiples organisations de commerce, réseaux d'entreprises, think tanks. Et c'est pour créer une chambre d'écho, affirme Pasqué Sabido.
Il faut être vraiment conscient que l'objectif des entreprises qui font le lobbying, c'est de créer une crédibilité. Et tu ne crées pas la crédibilité à travers de dire la vérité. De créer la crédibilité, de construire une base de crédibilité, ça vient avec la répétition de ton message. Et donc, si je suis en politique et j'entends que Exxon qui dit qu'il ne faut pas réglementer le climat ou, je sais pas, il ne faut pas augmenter le soutien pour l'énergie renouvelable, si Exxon a payé 10 autres voix, si je suis politique, je suis entouré par les voix qui sont contre l'intérêt du public et pour l'intérêt d'Exxon. Donc, c'est pour ça qu'Exxon embauche toutes ces associations, tous ces lobby consultants, tous ces think tanks et aussi les avocats en plus. C'est pour multiplier son message et assurer que les politiques sont entourées par ce message et créent la crédibilité.
Mais où sont-ils tous ces lobbyistes? À défaut de rencontrer un représentant d'ExxonMobil, nous souhaitons au moins parler avec un autre lobbyiste, n'importe lequel. Nous entrons dans un building en verre et acier. À côté de l'ascenseur, des panneaux élégants indiquent les entreprises et organisations qui occupent les différents étages.
Ici, c'est le bâtiment de plusieurs lobbyistes. Mais parmi eux, on a Bayer. Et Bayer, en fait, c'est la grande entreprise chimique allemande qui a acheté Monsanto. Et donc, il produit la glyphosate.
Pasqué Sabido Saint-Oron. Un jeune homme en costume cravate entre dans le hall. Peut-être est-ce enfin notre lobbyiste? Allons lui demander. Vous êtes un lobbyiste?
On peut dire ça. Je travaille pour la Fédération nationale du commerce irlandais. On fait en sorte que les intérêts et les priorités des entreprises irlandaises soient représentés le mieux possible. Et je m'appelle Sean Lester. Bon, en fait, je ne suis pas vraiment un lobbyiste. Je suis plutôt un représentant diplomatique.
Est-ce que le mot lobby a une connotation négative pour vous?
Je n'ai aucun problème avec ce mot. D'autres ont peut-être un problème, pas moi. Pour moi, la représentation des intérêts au sein de l'action politique, c'est un travail crucial. Pour les entreprises, mais aussi pour les syndicats, les ONG, ils ont tous un rôle à jouer dans la politique. On parle de la société, pas seulement du commerce.
Mais plus vous avez de l'argent, plus vous pouvez payer des lobbyistes. C'est ça le problème, ou pas?
C'est un problème. Mais bon, tous les rôles sont importants. Tous les éléments de la vie politique sont précieux et doivent être représentés.
Shane Lester regarde en vain les jolis panneaux affichés à côté de l'ascenseur. Il ne sait toujours pas où a lieu la réunion à laquelle il est convié. Pasqué Sabido parie sur le quatrième étage. Les entreprises ne mettent pas tous leur nom, précise-t-il. Le représentant diplomatique s'engouffre dans l'ascenseur et Pasqué Sabido nous livre son commentaire.
On ne dit pas que c'est le lobbying, c'est le public affair, c'est représenter nos intérêts, tout le monde représente leurs intérêts, on est tous égales, c'est juste on fournit l'information, c'est très neutre. Hein? Qu'en fait, ils représentent des intérêts de business assez étroits pour moi qui mettent le profit et le bénéfice avant l'intérêt de l'environnement, de la société, des travailleurs, etc., etc.
Et ce lobbying des entreprises a un prix.
Les chiffres qui circulent, c'est qu'ils dépensent 3 milliards chaque année.
Les entreprises dépensent 30 fois plus d'argent pour le lobbying que les ONG, selon Pasqué Sabido, et ils ont environ 10 fois plus de lobbyistes.
Est-ce que vous savez combien de lobbyistes il y a ici dans le quartier européen? En fait, c'est entre 15 et 30 000 lobbyistes. Pour, je dirais, c'est quoi? C'est 3 km carrés ici. Je crois qu'il y a plus ou moins un lobbyiste pour chaque fonctionnaire.
Mais où sont-ils donc? Pasqué Sabido désigne la petite place juste en face du Parlement européen. Les terrasses des cafés sont pleines. Il doit bien s'y trouver quelques lobbyistes. Et au bout de multiples tentatives, voilà enfin un lobbyiste.
Je travaille avec Denmark Finance. On fait en sorte que les lois soient un peu plus favorables pour les banques. Mais bon, je trouve que le mot lobbying a une connotation négative, comme si c'était de la corruption. Alors que notre rôle est tout simplement d'informer le législateur sur les conséquences d'une loi sur les citoyens et le commerce de notre pays.
Le lobbying, rien d'autre que de l'information neutre. Pour les observateurs, c'est rarement le cas. Au contraire, ils dénoncent des pratiques mensongères. Outre les fausses controverses scientifiques et les rapports d'experts commandés, ils fustigent aussi les expositions pseudo-scientifiques pour influencer l'opinion publique.
Alors, qui sème les OGM récolte des problèmes. qui sème les OGM.
La scène s'est déroulée il y a quelques mois. Nous sommes à Paris, cette fois-ci, dans le quartier du Marais, au centre de la ville. Cette salle d'exposition est joliment décorée. Plantes vertes, vitrines bien présentées et donc ambiance harmonieuse. Sauf que, pour ces activistes qui crient à gorge déployée, cette harmonie est fausse.
Récolte les problèmes. Bayer, Monsanto, un cancer de qualité.
Derrière cette exposition, l'UIPP, l'Union des industries de la protection des plantes, qui regroupe des firmes agrochimiques comme BASF ou encore Bayer et sa filiale Monsanto. Dans cette salle, l'UIPP illustre les bienfaits de leurs produits phytosanitaires, qui ne sont rien d'autre que des pesticides comme le glyphosate produit par Monsanto et qui est classé comme cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la santé.
Une graine achetée, un cancer offert.
Les organisateurs de cette exposition écoutent les activistes et élus scander leur slogan, un petit sourire crispé aux lèvres. Ensuite, Eugenia Pomaret, la directrice de l'UIPP, les accuse à son tour. Ce sont eux qui ne se préoccupent pas de la santé des plantes.
Apparemment, certains d'entre vous estiment qu'il serait possible de mener à bien une agriculture sans se soucier de la santé des plantes. Or, le but ici, c'est vraiment de parler de la santé des plantes.
Là, ce qu'on vous reproche, c'est des opérations de greenwashing, c'est-à-dire présenter les pesticides comme des médicaments et s'intéresser à la protection des plantes, alors que pendant ce temps-là, vous vous battez et vous dépensez une énergie incroyable en plaidoyer, en lobby,
pour contrer
la réglementation.
Pendant qu'elle continue à discuter avec le porte-parole des écologistes, Julien Bayou, d'autres voix se lèvent. Léa Vaza, adjointe verte à la mairie du 10e arrondissement de Paris, est en train de débattre avec Delphine Gay, la directrice de la communication de l'UIPP.
Je suis en train d'expliquer mon métier, ce que c'est qu'un lobbyiste. En effet, je représente l'intérêt du secteur de la santé des plantes, je ne vais pas défendre un autre secteur, je suis...
Et vous défendez les intérêts privés de grandes entreprises et nous ce qu'on essaie de défendre ici c'est l'intérêt général, l'intérêt de la santé des citoyens.
Les questions de sécurité sanitaire, voilà, il faut vraiment se tourner vers les agences qui sont chargées d'assurer la sécurité sanitaire de ces produits.
Mais là, le chat se mord la queue. Selon un rapport de la journaliste Stéphane Aurel et du Corporate Europe Observatory, 58% des experts scientifiques de l'agence européenne EFSA, c'est-à-dire l'autorité européenne de sécurité des aliments, sont en conflit d'intérêts en raison de leurs liens avec les industries qui sont censées réguler. Et c'est ainsi que ces agences européennes, mais aussi nationales, reprennent parfois mot par mot les conclusions des entreprises. La députée européenne Michèle Rivasi en sait quelque chose. Elle connaît le dossier du glyphosate par cœur.
L'agence allemande, par exemple, qui était l'État rapporteur pour l'évaluation du glyphosate, ils avaient fait des copier-coller des conclusions des études faites par Monsanto qu'eux-mêmes se sont appropriées sans dire que c'était Monsanto direct. C'est-à-dire qu'au sein des agences, ils ont mis des gens, vous voyez, qui sont complètement... cul et chemise en fait avec Monsanto.
En automne 2017, Monsanto n'est pas venu à une audience organisée par Bruxelles. L'entreprise était soupçonnée d'influencer les recherches autour du glyphosate. Et c'est alors que Monsanto s'est vu infliger la même sanction que le géant pétrolier ExxonMobil a failli subir, à savoir le retrait de ses badges pour ses lobbyistes. Une mesure qui ne règle pas tout, mais c'est un premier pas vers une prise de conscience des décideurs politiques.
On ne peut pas fonctionner avec les lobbies. Les lobbies, eux, c'est leur intérêt à court terme et leur intérêt privé pour une catégorie de gens. Or, si on joue là-dessus, eh bien, soit on va empoisonner les gens, on le voit sur Monsanto. Le glyphosate, ils savaient que c'était cancérogène. Eh bien, ils l'ont quand même mis sur le marché. C'est comme les pétroliers. Vous voyez, ils investissent énormément pour trouver encore un puits de pétrole, pour trouver encore plus de gaz, etc. Eh bien... Ça tue quoi ? Ben là, ça tue carrément la planète. Et donc, le seul contre-pouvoir de ça, en fait, c'est les ONG, c'est les mouvements citoyens.
Monsanto, non ! Ma santé, oui !
Merci à tous les participants. Les lobbies pèsent à Bruxelles. Un reportage de Christine Siebert, réalisé par Pierre Chaffangeon.
Monsanto, non ! Ma santé, oui !